Merci, cher Philippe. Je suis très, très heureux d'être parmi vous. Je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Yann Boissière, je suis rabbin d'une communauté de sensibilité libérale. Ce sera peut-être une question que vous aurez de savoir c'est quoi la différence entre une sensibilité libérale et traditionnelle ou orthodoxe. En tout cas, rabbin d'une assez grosse synagogue à Paris, dans le 15e arrondissement. Je suis aussi président et fondateur d'une association qui fait du dialogue, alors non pas interreligieux, mais interconvictionnel, c'est-à-dire qui ne fait pas seulement discuter des religieux entre eux, mais des religieux avec tous les autres segments de la société, les voies de la paix, mais je sais que vous êtes beaucoup dans ces actions aussi interreligieuses ici. Et puis je suis secrétaire général de l'IHMR, qui est l'Institut des hautes études du monde religieux, et puis je suis aussi conférencier, et j'écris des livres, mon dernier livre s'appelle « Courage croyant », pour en finir avec les clichés anti-religieux, c'est publié chez Des Clés des Brouwers au mois de septembre. Alors c'est dommage parce qu'on a oublié de vous dire que voilà, on aurait pu faire une signature. Voilà. Et donc on va parler ce soir. Je vais vous dire un petit peu ce que je compte faire. J'aime bien commencer toujours par citer cette phrase. Il y avait cet auteur que vous connaissez peut-être, Samuel Agnon, qui est un auteur israélien, un prix Nobel de littérature en 1957, si mes souvenirs sont exacts, qui dit « Il y a deux sortes d'orateurs. Il y a les orateurs dont on sait par avance ce qu'ils vont dire, et il y a les orateurs, une fois qu'ils ont parlé, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont dit. » Donc je vais essayer d'éviter les deux écueils. Je vais vous dire un petit peu comment je compte procéder. Donc une présentation large du judaïsme. Alors forcément, pour moi, l'intérêt, c'est de vous raconter ce que je vais vous raconter, mais aussi de susciter un dialogue, vos questions. Je vais parler pendant une heure à peu près. Et qu'est-ce que je vais faire? Trois grandes parties. Je vais parler du judaïsme, bien entendu, mais d'abord présenter le judaïsme dans le cadre des monothéismes. Le judaïsme est un monothéisme avec le christianisme et l'islam. Et je voulais parler... selon moi, ce qui est le génie des religions, je pense que les religions apportent beaucoup dans la période actuelle, enfin, particulièrement qu'elles ont une sorte de fonction de résistance à un certain nombre de courants de la société, cette fluidité générale, cet émiettement général du bien commun. Je pense que les religions jouent un rôle dont j'aimerais dire quelque chose dans une première partie. Après, j'en viendrai à la spécificité du judaïsme, effectivement, qui repose sur des particularités religieuses bien particulières. Et puis après, je me placerai d'un point de vue plus sociologique et actuel. C'est quoi être juif aujourd'hui dans la société française aujourd'hui?
Tu as décalé la porte avec les chaises?
Oui.
Ah, il ne faut pas, c'est une porte coupe-feu. Il faut enlever les chaises et la laisser fermée.
Bien, monsieur, ça arrive.
Voilà, donc une première partie consacrée à ce que j'appelle un peu le génie des religions en six points très rapides, hein, je ne vais pas développer trop, mais dresser un parcours de choses que l'on sait, mais qui sont quand même intéressantes. Je dirais que déjà, il y a un premier message, alors je vais parler quoi du fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu, je vais parler du langage, je vais parler aussi de la bénédiction, ce qu'est la bénédiction, et puis trois autres petits points. Je dirais qu'un des points très forts pour moi des monothéismes, des religions en général, c'est qu'effectivement l'homme est censé être créé à l'image de Dieu et c'est ce qui lui donne sa dignité. Je dirais que les religions, dans l'histoire de l'Occident, il y a deux grandes attitudes humaines. Qui sont complémentaires, bien entendu, il ne s'agit pas de les opposer, mais je pense que de présenter la chose, par exemple, par opposition à la philosophie, c'est une manière intéressante de voir quelle est la spécificité religieuse. Je dirais que la première voie, c'est justement la philosophie qui repose sur l'étonnement. Hein, il y a un texte de Platon qui dit « c'est quoi être philosophe ?» Enfin, c'est lui qui a inventé en fait l'attitude philosophique. Elle repose sur « taumazain » en grec, qui veut dire « s'étonner ». S'étonner de quoi ? S'étonner de ce que le monde est, et de ce qu'il est, de ce que le monde est, ce qu'il est. Ça, c'est cette posture de l'étonnement. Platon vivait dans un monde où il était frappé par le fait que tout le monde avait une opinion, les opinions étaient, donnaient un bain de dissensus permanent, etc. Et l'attitude philosophique, c'est un moment de s'arrêter, d'avoir un mouvement de recul, de ne pas être dans l'opinion, dans la confrontation directe des idées, etc., mais de se rendre compte de ce qui nous est donné, donc de s'étonner, d'avoir un petit pas de recul. Et une fois qu'on a ce petit pas de recul, donné par le langage, le logos, etc., alors on a une extrémité de description de la réalité, essayer de qualifier ce qui est. Et là, c'est le coup d'envoi, effectivement, de la philosophie, avec toutes les distinctions que la philosophie pose, la substance et l'accident, la cause, la théorie des quatre causes d'Aristote, le pourquoi du comment, etc. Mais la grande attitude philosophique, c'est d'être face au réel. Hein, les Grecs avaient une intuition du réel comme quelque chose de très prégnant. D'ailleurs, la beauté chez les Grecs, c'est pas quelque chose de distinct de la réalité, c'est l'intensité de ce réel dans lequel on est. Et justement, d'avoir ce millimètre de recul, c'est avoir l'étude philosophique. Et je dirais que c'est une activité du quoi. C'est-à-dire mettre les bonnes étiquettes, arriver à décrire le monde tel qu'il est, de manière scientifique y compris, mais voilà, de poser les bons adjectifs sur la réalité. Par rapport à cette philosophie du quoi, cette grande attitude de l'étonnement et de la description de ce qui est, la religion, je dirais, c'est une philosophie du qui. Il ne s'agit pas de décrire le monde dans la religion. Alors bien sûr, les religieux peuvent être aussi des philosophes, et ils peuvent être des scientifiques et s'intéresser au monde tel qu'il est, d'essayer de le décrire, d'en décrire les lois, etc. Mais la question, ce n'est pas tellement de décrire le quoi, c'est par rapport à l'étonnement, c'est la reconnaissance. La grande attitude religieuse, c'est d'être reconnaissant de ce qui est. C'est-à-dire que ceci nous est destiné. Je suis projeté dans le monde et je suis le bénéficiaire involontaire, parce que je n'ai pas demandé à venir dans le monde, etc. Mais ceci dit, c'est la reconnaissance de que les choses me soient données, qu'elles me sont données par un créateur. Alors évidemment, le religieux a tout un vocabulaire pour décrire tout ça. Et donc la question, ce n'est pas tellement d'être dans une attitude du quoi, c'est qui. Qui je dois être, quelle doit être ma dignité pour être à la hauteur de ce cadeau qui m'est fait. Et donc la religion est directement dans la personne et dans la constitution de la personne, là où l'attitude grecque, ce sera plus la neutralité et la pure intelligence qui cherche à décrire le réel. Donc une opposition entre l'étonnement et la reconnaissance, une philosophie du quoi, qui est la philosophie grecque, occidentale, et une philosophie du qui, sur lesquelles sont basées les religions. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je pense que cette distinction entre le quoi et le qui, ça c'est un vraiment, et tant mieux si on est dans les deux attitudes, mais je pense qu'il y a une spécificité du religieux qui s'intéresse à l'homme. Le vecteur pour le religieux, c'est l'homme, qui il doit être, la pâte humaine, la substance humaine, plus que l'intelligence purement descriptive encore du monde. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est de nature à offrir une résistance intéressante dans notre monde actuel. La deuxième chose, c'est la parole. Quand on lit la Bible, effectivement, Dieu crée le monde pendant 6 jours. À chaque fois, il parle et il crée le monde. Et puis, à la fin, après avoir créé le ciel, la terre, le sec, le mouillé, les étoiles, les animaux, les herbes, etc., le 6e jour, vous le savez, il crée l'homme. Mais il le crée d'une manière particulière, et ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. À chaque fois, donc, le modèle de la création, c'est dit que les herbes soient, que les animaux soient, que le ciel soit éteint, et la chose est créée, non pas, oui, par la parole de Dieu en quelque sorte, enfin, Dieu annonce par la parole ce qu'il va créer, et il le crée. Pour ce qui est l'homme, en fait, c'est intéressant, il ne le crée pas, il dit qu'il va créer l'homme, etc., mais il s'adresse directement par lui au langage. L'homme, dans la création biblique, est directement adressé par le langage. Il n'est pas créé à l'intérieur du langage, comme une pâte, comme une matière, et après l'homme est. Il se dit qu'il va le créer l'homme, et tout de suite, il lui parle. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui qualifie l'homme. L'homme est doué de langage. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses aujourd'hui. On dit que, enfin, il y a plein de mouvements spécistes et autres qui disent qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et les animaux. L'homme sait trop penser de manière distincte, justement à travers ses qualités distinctes. En fait, il est juste un stade du vivant parmi les autres. Bon, c'est pas une pensée inintéressante. Mais je pense que les religions gardent cette sagesse, pour moi c'en est une, à savoir que le langage est vraiment quelque chose de distinct chez l'homme, que ça lui donne une part à part dans la création. Ça ne veut pas dire que c'est une recette pour écraser tout ce qui n'est pas lui et pour dominer de manière sauvage et exploiter de manière sauvage le monde qui lui est créé, mais je pense qu'effectivement le langage est quelque chose de distinct que travaillent les religions, notamment à travers les textes. Et c'est la grande question biblique, je ne vais pas tant m'apesantir là-dessus, mais au Jardin d'Éden, vous savez, il y a cette fameuse histoire de fruits, on cueille la pomme, etc. La première question que Dieu qui suit s'adresse à l'homme, c'est « Ayeka » en hébreu, « Où es-tu ? Où es-tu ?» Donc il s'adresse à l'homme en tant que sujet. C'est pas où es-tu, c'est pas une question GPS, hein, Dieu ne cherche pas la localisation de l'homme, il sait parfaitement où il est, mais où es-tu, ça veut dire, ok, tu viens de découvrir que les actes avaient des conséquences, il va y avoir du fait de conséquences du vol de cette pomme, mais où en es-tu de sa vie? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir fait ça? Ça rappelle un peu d'ailleurs la phrase de Paul, qui n'était pas un rabbin, mais qui était imprégné de cette culture, il dit « Tout m'est permis, mais tout ne me construit pas ». Je pense que c'est une phrase très intéressante. Factuellement, tout m'est permis, j'ai la liberté de faire absolument ce que je veux, le bien, le mal, la destruction, etc. Mais par contre, tout ne me construit pas. Je pense que donc, à partir du langage, il y a une spécificité que les religions travaillent. Là aussi, ça paraît peut-être banal, mais ça l'est pas tant. Je veux dire, à une époque d'illusion totale technologique, due aux nouvelles technologies, je cite juste cette phrase d'Elon Musk, qui est l'un des turiféraires les plus actifs en ce moment, qui cherche à implanter des neurones dans des électrodes dans le cerveau humain, etc., qui disait dans 5 ans, l'homme n'aura plus besoin d'utiliser le langage, peut-être qu'on le gardera pour des raisons affectives. Voilà la vision transhumaniste de nos grands idéologues des nouvelles technologies. Donc dire que le langage est une spécificité humaine et que ça se travaille de manière particulière au sein des religions, je pense que c'est pas si banal que ça. Troisièmement, alors j'enquille les choses un petit peu rapidement, hein, parce que voilà, je pose plus les thèmes que je les développe à fond. Cette notion de la bénédiction est importante aussi. C'est une notion alors purement religieuse, peut-être que les non-religieux ne comprennent pas, mais il y a une intuition profonde là-dedans qui naît aussi dans le récit biblique au moment où apparaissent, on est vraiment dans les premiers chapitres de la Genèse, où apparaissent deux personnages qui sont très intéressants, qui est le personnage de Nemrod et le personnage d'Abraham. Abraham va devenir le premier patriarche, bien sûr, avec toute la saga des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Mais ces deux personnages sont très importants parce qu'ils sont typés comme deux types de civilisations complètement différentes. Souvent, hein, une lecture intéressante de la Bible, c'est ce qu'on appelle la lecture typologique, c'est-à-dire que les personnages apparaissent dans toute leur matérialité, dans tout leur caractère scénaristique, j'ai envie de dire, mais en réalité, ils sont porteurs aussi de grands modèles de civilisation. Nemrod, c'est intéressant. Le texte dit que c'est le grand chasseur devant l'Éternel. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en hébreu, Nemrod est une racine, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des hébraïsants parmi vous, même resh taled, meret, qui veut dire rébellion. Nemrod, c'est celui qui se rebelle. Il se rebelle contre quoi? Il se rebelle contre ce qu'il appelle, contre ce qu'il juge être l'inconstance divine. L'épisode de Nemrod et Abraham apparaît juste après le déluge. Et le déluge, c'est vrai que c'est inacceptable du point de vue de l'homme. Voilà un dieu soi-disant omnipotent, omniscient, qui crée un monde supposément pas trop mal, puisqu'il est censé savoir ce qu'il fait. Et voilà que Dieu, à un moment, regrette de l'avoir créé parce que le monde est rempli de violence. Donc il le détruit. Il décide de mettre à part, vous connaissez cette histoire, 40 espèces différentes, mâles et femelles, il demande à Noé de construire une arche, etc., et il sauve le monde. Et Nemrod n'accepte pas cette inconstance divine. Mais pourquoi avoir besoin de détruire le monde qu'il a créé alors qu'il était censé créer un monde, je ne dis pas idéal, mais en tout cas ne pas avoir besoin de le détruire derrière. Et c'est intéressant parce qu'il y a des commentaires, ça n'apparaît pas dans le texte biblique, mais il y a des commentaires parallèles, qu'on appelle le Midrash, la littérature du Midrash, c'est une littérature très narrative, mais toujours à visée explicative, qui cherche à combler les trous, c'est une littérature rabbinique qui a été écrite entre 0 et 600, qui dit que Nemrod, donc vous savez, Nemrod, c'est celui qui construit la tour de Babel, et il l'a construit précisément à l'endroit où, nous dit-on, l'arche de Noé a échoué, sur le mont Ararat. D'ailleurs, il y a des localisations du mont Ararat dans les monts Taurus, à côté de l'Irak actuellement, Turquie-Irak. Et donc pour montrer que c'est celui qui se révolte, Nemrod, de l'inconstance divine et qui cherche à édifier une civilisation purement technicienne, purement autoconstruite. Voilà. Et d'ailleurs, la tour de Babel, c'est le premier gratte-ciel de l'humanité, mais gratte-ciel au sens presque littéral. C'est-à-dire, c'est celui qui va gratter le ciel pour aller défier Dieu en disant, toi Dieu, j'ai pas besoin de toi, et je vais édifier une civilisation purement humaine, purement basée sur la technique humaine. Et donc ça, c'est un modèle. Alors la Bible, évidemment, on a une conception très négative. La leçon de la Bible, c'est que ce genre de civilisation dérive dans l'autoritarisme et dans une sorte de société à 1984. Et donc Dieu, effectivement, intervient pour disperser les hommes de la tour de Babel et pour confondre leur langue. ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que pour la tradition juive, cette dispersion des lobes n'est pas du tout une punition, mais au contraire une chance, une bénédiction, à savoir une langue où les hommes auraient un langage unique. C'est vrai que ça sonne plutôt sympathique a priori, mais en fait c'est une langue au langage unique, c'est la pensée unique, et c'est 1984, on est chez Orwell, on n'est pas du tout dans la diversité des hommes. La tradition rabbinique a une vision très positive du fait que Dieu ait dispersé les langues, parce que ça oblige à se traduire, avec les petites trahisons, traduction-trahison, dit le proverbe italien, mais justement, c'est ça qui pose la diversité. Donc en tout cas, ça c'est le modèle de Nemrod, et opposé à ce modèle autoconstructeur, défiant Dieu, etc., Abraham défini comme le père de la bénédiction, à savoir quelqu'un qui accepte la première geste d'Abraham, elle dérive d'une injonction qui dit voilà, mets-toi en chemin, quitte la maison de ton père, quitte la patrie, quitte ta famille, etc., pour aller vers une terre que je te montrerai. Et l'attitude là qui est valorisée par rapport à cette domaine Europe, c'est celle de la capacité de se mettre en mouvement sans aucune garantie. C'est une terre, je te montrerai, quelle terre, où, comment, quand est-ce que tu vas me préciser tout ça, évidemment, on n'en a aucune idée. Mais la capacité à obéir justement à des injonctions purement de langage. Là aussi, le langage est majeur. Le langage, ici, c'est une promesse. On n'est évidemment pas obligé d'y croire. Mais la leçon, c'est que si on ne croit à rien et si on n'est pas capable de se mettre en mouvement de manière un peu à l'aveugle comme ça, alors rien ne se construit. Et c'est ça la notion de la bénédiction. La bénédiction, c'est la bénédiction. C'est l'idée qu'il y a du potentiel dans le monde, que derrière le monde du ceci, le monde dur, factuel, en fait, il y a un potentiel de croissance. La bénédiction, c'est cet idéal d'un potentiel de croissance, mais évidemment sans garantie. Donc ça repose aussi sur l'engagement, ça repose sur un croire. Ça repose pas sur une colère initiale, parce que Nemrod est l'initiateur de tous ceux qui pensent la colère comme étant à l'origine du monde. C'est une manière de voir le monde, que le monde est insatisfaisant, etc., et de fait il l'est, mais de baser sa civilisation sur un ressentiment, c'est un certain modèle, de le baser sur une promesse et une confiance, peut-être éventuellement déçue, c'en est une autre, et c'est la voie de la bénédiction. Ça, c'est les deux attitudes, et je pense que par rapport à notre société actuelle, où le ressentiment, ou même l'indignation, est valorisée comme la grande attitude, indignez-vous, disait Stéphane Hessel, bon, qui par ailleurs avait une biographie irréprochable, mais après, politiquement, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec cette philosophie de l'indignation, le ressentiment, etc., bon, ben voilà, c'est sans doute un affect légitime humain, mais c'est peut-être pas le plus intéressant pour... En tout cas, voilà, la différence de modèle pose une question, pose un débat, où les religions, je pense, ont quelque chose d'intéressant à défendre. Alors, je regarde le temps qui file, oui, on est à pratiquement 20 minutes, je vais pas développer tout ce que j'avais prévu de développer juste sur les religions, parce que je voudrais en passer au judaïsme. Juste une chose intéressante encore que les religions ont et qui est utile aujourd'hui, je dirais, c'est la confrontation au texte. La différence d'ailleurs entre spiritualité et religion, parce qu'on vit à une époque où les spiritualités sont volontiers valorisées, chacun bricole son petit truc, un petit peu de zen, un petit peu de machin, etc., et pourquoi pas, enfin, je veux dire, si les gens sont heureux, c'est déjà parfait. Je dirais que les religions, bon, qui sont aisément critiquables, parce qu'une religion, c'est nécessairement quelque chose qui s'institutionnalise, avec toutes les dérives, évidemment, qui naissent de l'institution, notamment l'appétence pour le pouvoir. C'est vrai qu'il n'y a pas une institution où il n'y a pas des phénomènes de pouvoir qui se développent, et ça peut avoir un aspect, petit un très désagréable, petit un très contradictoire avec la notion même de spiritualité. Mais en tout cas, les religions ont développé des institutions. Ça, c'est un point vraiment qui distingue des spiritualités. Et le deuxième point, je crois que justement, une religion, c'est une spiritualité avec un corpus de textes. Et ça, c'est absolument central, parce que la qualité première des religions, en théorie en tout cas, c'est de devoir lire un texte. Et un texte qui reste fixe, hein, un texte, c'est le respect du signifiant. Et alors là aussi, c'est une histoire un peu contre-intuitive pour la pensée post-moderne. Souvent, on entend d'ailleurs ce genre de critique, mais les religions sont complètement dépassées, elles sont surannées, elles sont bloquées dans leurs référents, etc. Et en fait, il faudrait changer les textes. On entend ça, par exemple, beaucoup en ce moment vis-à-vis de l'islam. C'est vrai que quand on lit l'islam, bon, il y a des textes qui sont tout à fait choquants. Au passage, dans la Bible aussi, hein, on voit des peuples entiers se faire passer par l'épée, enfin, ou des trucs complètement évidemment complètement choquant pour la conscience moderne. Et donc l'idée facile, mais à mon avis totalement fausse route, ce serait de dire il faut changer ces textes, il faut les faire évoluer. Sauf que je pense que c'est négliger la manière dont procèdent les religions. Justement, la grandeur de la religion, c'est de se coltiner un texte et de voir que c'est choquant. Donc quoi en faire? Il faut interpréter les textes. J'avais un maître à Jérusalem qui nous racontait qu'un jour un élève était venu lui dire « Maître, je suis vraiment choqué par tout ce que je ne comprends pas dans la Bible ». Et le maître de répondre à ce disciple, et moi je suis choqué par tout ce que je comprends plutôt. et c'est ça la nécessité d'interpréter. Alors ça on l'a poussé très loin dans le judaïsme, c'est une religion d'interprétation. Il faut se coltiner ce texte immuable sans chercher à le changer, parce qu'il y a aussi un aspect, c'est que si on change les textes, en fait qu'est-ce qu'on transmet d'une génération à une autre ? Si à une génération on apprend un texte et que la génération suivante le change en fonction de ses idées, changer le texte de référence juste en fonction des idées de l'époque, c'est la recette pour en 3-4 générations ne plus avoir du tout de fil commun. Donc déjà pour une nécessité de transmission, c'est transmettre un corpus défini, mais surtout pour s'obliger à l'interpréter d'une manière différente. C'est ça le défi des religions. L'exemple classique, il y en a des milliers, mais un exemple très, très concret de ça, c'est dans la Bible, il est dit « œil pour œil, dent pour dent », vous savez, etc. Et ça a été évidemment interprété par la culture rabbinique, qui a totalement changé d'ailleurs, c'est permis elle, de réinterpréter les choses de manière parfois complètement différente, c'est devenu le principe de compensation financière. Donc on voit bien le genre de pensée juridique qui s'élabore sur un texte de base, mais qui à une époque ne passe plus du tout. La vendetta, c'est plus du tout dans la culture, de quelques siècles plus tard. Mais par contre, tout en respectant ce texte, on va y chercher le principe qui parle à l'époque. Et ça devient le principe de compensation financière face à un dommage précis. Et puis, ainsi de suite, pour les époques qui suivent. Ce génie de la lecture du texte, je pense que c'est une des forces des religions. Plus personne ne sait lire aujourd'hui, plus personne n'est intéressé à la lecture, plus personne ne pense que le texte est quelque chose auquel on peut se confronter pour le faire évoluer. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on base. On est d'accord, c'est pas plus intéressant que ça, puisqu'on est d'accord avec ce que dit le texte. Mais on loupe justement cette fonction de résistance du texte et ce lien, savoir lire, savoir interpréter, savoir dépasser les choses qui nous plaisent pas. Ça, je pense que c'est un savoir-faire des religions extrêmement valable pour l'époque actuelle qu'elle a su préserver. Alors voilà, 4 points très rapides sur le génie des religions en général, je pense, et donc aussi du judaïsme. Maintenant, le judaïsme repose sur un certain nombre de caractéristiques particulières. Alors là aussi, je vois que le temps file tellement vite, il va falloir que je fasse des choix dans ce que j'ai à dire. Je dirais que d'une manière générale, le judaïsme instaure un certain nombre de distinctions absolument majeures et à certains autres endroits, je vais évidemment préciser cette pensée, insiste pour mélanger des choses qui dans la culture occidentale sont distinctes. Deux choses intéressantes, deux distinctions vraiment très importantes culturellement pour le judaïsme, c'est les rapports entre Dieu et le monde, le rapport de transcendance. Et ça, c'est quelque chose qui le distingue effectivement de certaines philosophies ou de ce qu'on appelle le monisme en philosophie, à savoir le fait que tout est un, il n'y a pas de distinction entre le spirituel ou le matériel, etc. Il y a cette notion qu'effectivement Dieu a créé le monde et Dieu se retire du monde, que Dieu et le monde ne peuvent pas être pensés sur le même plan. C'était une phrase de Lévinas qui disait « la transcendance pour moi ça a un sens très simple, c'est le fait qu'on ne puisse pas penser Dieu et le monde sur le même plan ». Ce sont deux réalités distinctes, c'est comme l'eau et l'huile, ils sont collés l'un à l'autre, mais voilà, l'huile est distincte de l'eau, c'est comme ça. C'est ça la relation de transcendance, ça ne veut pas dire que Dieu est absent, etc. Mais voilà, c'est une relation à la fois d'exclusion et de complémentarité. Pour les physiciens, peut-être ça parlera, le fait que les choses soient intriquées, mais néanmoins distinctes. Au passage, il y a presque un dispositif, je dirais, laïque dans le judaïsme. Je ne veux pas dire que le judaïsme a inventé la laïcité, mais en tout cas, il y a une sorte d'appétence pour la laïcité, c'est-à-dire que le monde n'existe dans le judaïsme que précisément parce que Dieu s'est retiré. Ça, c'est la lecture de la Bible. Dieu crée le monde en six jours et le septième jour, il s'arrête. Hein. Shabbat, le mot Shabbat dans en hébreu, ça veut dire cessation. Il y a un mot hébreu en berne, shvita, qui veut dire la grève. Je m'étais attiré un grand succès auprès d'un parcours de syndicaliste une fois en disant que la grève était un droit divin dans le judaïsme. Je m'avais acquis la sympathie de la salle. Voilà, mais Shabbat, c'est la cessation, parce que Dieu, précisément, dans la pensée juive, se retire pour laisser aux hommes le soin de faire le boulot. Parce que, voilà, Dieu a fait pas mal de choses, mais bon... On sera tous d'accord avec l'idée que le monde nécessite quand même un peu d'être amélioré. Et ça, c'est notre travail à nous. Le monde n'existe que parce que Dieu a accepté de se retirer. Et donc d'être présent quelque part, enfin d'être absent. C'est parce que Dieu est absent du monde que c'est un monde pour l'histoire des hommes. Et comme il est absent et qu'on peut très bien d'ailleurs oublier qu'il existe, c'est la raison pour laquelle le judaïsme instaure un certain nombre de procédures pour le faire revenir dans l'image, aussi bien dans la dimension du temps que dans l'espace. Dans la dimension de l'espace, c'est ce qu'on appelle le tabernacle, j'en dirais d'ailleurs un mot, et dans l'espace du temps, c'est le Shabbat, justement, c'est-à-dire qu'un jour sur sept, il nous faut, nous, ne rien faire pour réintégrer Dieu, là où Dieu lui-même a décidé de ne rien faire après avoir agi pendant six jours. En tout cas, il y a cette distinction très forte, cette dialectique présence-absente qui est très forte. Et puis, il y a un trait très intéressant, la deuxième grande distinction, là aussi j'enchaîne très rapidement les idées, c'est la précédence du langage sur l'être. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous renvoie encore à cette distinction culturelle très forte entre, par exemple, la pensée grecque, la philosophie, et la pensée du judaïsme. C'est vrai que dans le judaïsme, Dieu parle avant que les choses soient. Et la parole reste toujours le phénomène premier, et c'est comme si les choses essayaient d'être à la hauteur de ce qui a été annoncé. Mais la parole, quelque part, reste toujours au-dessus, et c'est comme si elle tombait un peu à la perpendiculaire de l'être, et qu'elle est toujours en jugement de l'être. C'est pour ça, c'est la raison, je dirais, métaphysique extrêmement profonde pour expliquer le fait que le judaïsme soit une religion de la loi. La loi s'oppose au réel, parce que le réel est constamment en but avec l'idée que il y a une exigence qui est donnée par le langage qui continue de la juger. Ça, c'est très différent du judaïsme, parce que dans le judaïsme, on se disait que la réalité première, c'était au contraire une expérience de l'être. L'être comme quelque chose de prégnant, qui s'impose, la beauté, l'intensité de l'être. Alors, les Grecs aussi avaient cette idée que le monde, la force du monde, était ordonnée, qu'il y avait un ordre interne. Mais justement, la fonction de la philosophie, c'était d'extraire cet ordre interne, qu'on appelle le logos. Le mot logos veut dire aussi bien ratio, raison, que langage. Donc, par une sorte de... c'était le miracle grec. Face à cet être, on avait, nous, l'intelligence pour aller chercher l'ordre inclus dans le... inclus dans le réel, mais la première réalité, c'est néanmoins l'être. Et bien pour le judaïsme, c'est l'inverse. La première réalité, c'est la parole. C'est la parole et en tant qu'elle juge constamment le réel. Et c'est la raison pour laquelle la loi, le dispositif de la loi, vous savez très bien que le judaïsme a refusé quelque part de se séparer de la loi par rapport au christianisme, trouve sa raison métaphysique dans le fait que la parole est le phénomène premier, et cette parole continue, comme dit le verset, hein, le verset 3, hein, « Merachefet alamayim, alpner amayim », elle volette au-dessus de la surface des eaux. La parole, elle est toujours comme ça, au-dessus, elle exerce une sorte de pression normative sur le réel, et c'est pour ça que profondément, le judaïsme est une religion de la loi, une religion de la parole. Voilà deux distinctions très fortes. Alors je vois que le temps vraiment file trop vite. Je vais juste insister sur une dimension justement culturellement c'est intéressant où le judaïsme rapproche des choses qui en général sont distinctes dans l'histoire occidentale. Il y a une séparation très forte dans l'histoire occidentale, dans la philosophie grecque en premier, mais dans l'histoire occidentale, entre la pratique et la théorie. Il y a cette phrase, il y avait un grand architecte d'ordinateur, alors moins connu que John von Neumann, mais tout aussi génial, c'était Snapshot, c'est un Hollandais. Il disait, en théorie, il n'y a aucune différence entre la pratique et la théorie, mais en pratique, il y en a une. Et c'est quelque chose, c'est presque un puzzle un peu... et alors, autre blague, puisque... après tout, je suis rabbin, il faut bien que je raconte quelques histoires. Bon, là, c'est une citation d'Einstein qui disait « La théorie, c'est quand on comprend tout, mais ça ne marche pas, mais rien ne marche. La pratique, c'est quand ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Et il ajoutait, ici on a joint la théorie et la pratique, rien ne marche et on ne sait pas pourquoi. En tout cas, il y a cette distinction entre la pratique et la théorie. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de profondément étranger au judaïsme, en réalité. Il y a cette fameuse phrase « Naaseh v'nishma » qui est ce que répondent les enfants d'Israël au Sinaï. On leur propose une loi, et au lieu d'essayer de comprendre ce qu'elle comprend, enfin ce qu'elle comporte, etc., pour voir si on est capable de vivre à son niveau, etc., « Naaseh v'nishma », nous ferons et nous comprendrons. Dans cet ordre-là, c'est profond. La pensée de cartésienne qui nous anime est contraire. En général, l'idée que la pratique ne doit s'enclencher que quand on maîtrise à peu près ce qu'elle est censée faire, etc. Dans le judaïsme, il y a un tropisme pour le faire, et ça va évidemment plus loin que ça. Il y a cette idée que justement, il y a un ordre pratique qui n'est pas du même ordre que l'ordre théorique, et que dans la pratique même, il y a des choses qui peuvent se comprendre. Et c'est la raison aussi pour laquelle, je vais très vite, mais c'est quelque chose qui est mal compris peut-être du judaïsme, cette relation entre la spiritualité et le droit. C'est une application de la même idée. En général, la religion, l'idée de la spiritualité consisterait à plutôt séparer ce qui est de l'ordre de la spiritualité, qui serait plutôt de l'ordre de l'esprit, et de la matière, qui serait plutôt de l'ordre du corps, donc un petit peu négatif. Hein, soma sema, comme disait Platon, le corps est un tombeau. Le judaïsme ne pense absolument pas ça. Au contraire, le corps, c'est ce qui porte l'âme, c'est ce qui lui donne la capacité d'agir dans le monde. Même chose, c'est pour ça aussi que le judaïsme est une religion de la loi. La spiritualité doit nécessairement s'expliquer par du juridique. Si ça ne se traduit pas par quelque chose de juridique, ça reste en l'air. Et le juridique est profondément imprégné de spiritualité. Ça, c'est une distinction que le judaïsme refuse de faire entre le théorique et le pratique, entre le spirituel et le juridique. C'est une idée extrêmement forte. Il y a d'autres distinctions, etc., mais ça, je pense que c'est quelque chose de très... C'est une intuition hébraïque très très forte qui est restée centrale dans le judaïsme. 21h10, oh là là, mais c'est fou comme le temps file avec vous. Encore une vingtaine de minutes, mais oui, mais j'ai mon grand troisième sujet. Je voulais parler, mais alors juste, je vous laisse... je vais les aborder de manière très très rapide. Il y a deux grandes choses que je voulais souligner, c'est justement l'importance de la loi et comment on la comprend, et puis le lien qu'il peut y avoir entre le projet politique du judaïsme, en quelque sorte. Alors très très court sur chacun. La loi, une autre manière de voir la loi et pourquoi le judaïsme a gardé la loi, vous connaissez, c'est intéressant d'ailleurs, le christianisme s'est séparé de la loi à travers la pensée de Paul, qui disait, qui a souhaité, alors pour deux raisons, il y a une raison à mon avis tactique, mais qui n'est pas très noble, c'est sûr que Paul, quand il est allé prêcher auprès de communautés qui n'étaient pas juives dans les mondes, en Grèce, etc., commençait par dire, les amis, j'ai une formidable nouvelle, une nouvelle religion est née, il faut commencer par s'empêcher de bouffer des coquillages, des machins, etc., et les 613 interdictions, c'est pas terrible d'un point de vue marketing pour aller convaincre les gens. Donc je pense que c'est une raison réelle, quand il a été prêché dans des peuples qui culturellement n'étaient pas juifs, n'étaient pas imprégnés, c'était pas terrible. À part ça, il y a quand même un raisonnement très intéressant de la part de Paul qui dit, la loi, c'est super, etc., mais c'est un truc impossible, c'est quelque chose de mortifère. La loi est tellement élevée qu'elle rappelle constamment à l'homme qu'il n'est pas à la hauteur de la loi et qu'il n'est pas capable de l'accomplir, et c'est quelque chose de profondément déceptif et de profondément négatif. Le judaïsme, vous l'avez compris, ne pense pas du tout ça. La loi est une manière de s'élever. Et c'est le point que je vais développer plutôt dans cette idée dont je voulais vous parler. La loi est la médiation, le bon curseur, on va dire, entre deux idées contradictoires que la Bible affirme très fortement. La Bible affirme la souveraineté divine, parce qu'elle croit en un Dieu effectivement suprême, alors omniscient, omnipotent, pourquoi pas, en tout cas elle croit dans la souveraineté divine, mais elle croit tout autant en la liberté humaine. Le judaïsme est a beaucoup développé cette idée que l'homme a la liberté de choix. J'ai placé devant toi le bien et le mal, la mort et la vie, etc. Tu choisiras la vie. Voilà. Et donc, c'est un peu contradictoire, la souveraineté divine et la liberté humaine, etc. Donc, le curseur intermédiaire, c'est la loi divine, avec, bon, là aussi, dans la modernité, il y a deux solutions qui peuvent pas être compatibles. C'est soit la souveraineté divine, Dieu parle, il émet la loi et il écrabouille tout le monde, vous obéissez, c'est bon, et si vous obéissez, bah, vous êtes un bon juif, vous êtes un bon croyant, puis si vous obéissez pas, vous êtes un mécréant, c'est une possibilité. Et il y a une autre source de légitimité dans la pensée légale moderne, c'est le consentement. Toutes les sociétés modernes, nées des pensées au XVIIe siècle, de John Locke, de Thomas Hobbes, de Rousseau, etc., mettent l'accent sur le consentement, le contrat social. Une loi ne peut être respectée, n'a de légitimité que si elle fait l'objet d'un consentement de la part des gens. Donc entre le consentement et la pure volonté divine, et ben pour le judaïsme, il y a la loi qui émane de la souveraineté divine, mais la loi interprétée par l'homme. C'est-à-dire que la loi, c'est quelque chose qui s'interprète. Et c'est intéressant, enfin c'est un point d'histoire culturelle et religieuse que j'ai pas le temps de développer, mais c'est pour ça que le judaïsme n'a pas tellement développé une culture de la citoyenneté politique. Il y a une pensée politique dans le judaïsme, mais qui n'est pas du tout axée sur les mêmes raisons que sur les mêmes questions que dans la philosophie grecque. C'est quoi le bon régime, c'est quoi les différents, etc. Mais il y a une culture de la discussion de la loi. C'est ça le cœur du judaïsme. La loi divine, oui, mais interprétée par l'homme. Et on voit bien qu'à travers cette notion intermédiaire d'une loi interprétée, d'une loi qui se discute, d'une loi où on peut ne pas être d'accord, et de fait le Talmud, par exemple, qui est le grand livre de la pensée juive, où les rabbins discutent noir, blanc, mais non, mais si, etc., exprime justement cette discussion de la loi, et c'est la meilleure manière de garder l'équilibre entre la souveraineté divine et la liberté de l'homme. Donc la loi est un objet culturel central dans le judaïsme pour préserver ces deux idées. La deuxième chose dont je voulais vous parler, là aussi j'ai pas le temps de développer complètement, mais politiquement, le judaïsme, d'ailleurs dans l'histoire juive c'est tellement vrai, beaucoup de juifs qui n'étaient pas croyants, etc., ont investi, les mouvements révolutionnaires, le syndicalisme, enfin il y a beaucoup d'activisme juif qui ont participé à toutes les révolutions depuis le 18e, 19e, le bolchevisme et tant d'autres, parce qu'il y a un projet politique dans la pensée juive qui s'exprime dans la Bible à travers le rejet du modèle de l'Égypte. Il y a évidemment le deuxième livre de l'Exode est complètement consacré à cette histoire. La tyrannie du pharaon, la mise en esclavage du peuple juif par le pharaon, etc. Et puis la saga libératrice avec Moïse, effectivement, qui fait sortir son peuple, etc. Et à travers toute cette histoire se joue toute la pensée politique du judaïsme, et c'est le contre-modèle de l'Égypte. À savoir, une société complètement pyramidale. Il y a cette pensée d'ailleurs que les monuments caractéristiques d'une civilisation expriment justement la conception politique qu'ils ont. La pyramide, ça exprime complètement la vision politique qu'avait l'Égypte. Au passage, il y a une blague de Pierre Dac aussi qui est pas mal, qui nous dit, alors il faut l'animer pour comprendre, l'exemple des pyramides nous montre que les ouvriers égyptiens, plus ils allaient, moins ils en faisaient. Pas mal comme blague. Mais en tout cas, c'est vrai que la pyramide exprime parfaitement la conception politique, c'est-à-dire un type en haut qui se comprend lui-même comme la représentation de Dieu sur Terre, qui écrase totalement son peuple, voilà, d'une manière totalement arbitraire, cruelle, et sans que la notion de consentement existe, avec aucun degré de responsabilité en dessous. Il y a un type qui décide de tout, et derrière ça suit, enfin, c'est de la chair humaine ou de la chair à canon, etc. Tout le projet proposé par Moïse, c'est le contre-exemple de ça, à savoir une société qui ne reposerait pas sur le leadership tyrannique d'un homme, mais le plus partagé possible, et qui repose en fait sur ce qu'on appelle en hébreu le kavod abriyot, c'est-à-dire le respect dû aux créatures, c'est-à-dire la valeur infinie de chaque homme. Le but d'une société, c'est c'est de s'appuyer sur la valeur imprescriptible, irremplaçable de chaque homme, et d'essayer d'installer une pyramide de pouvoir où, avec de la subsidiarité, on dirait peut-être dans un vocabulaire moderne, où à chaque niveau de la société, chacun est responsable. C'est pas, il n'y a pas un type en haut qui a un pouvoir absolu sur tout ce qui descend sous lui, mais à chaque comme chaque homme est pourvu d'une qualité, il faut faire fructifier la qualité individuelle de chacun pour le bénéfice de toute la société. Donc il y a un projet effectivement très très démocratique dans la pensée juive. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires qui soulignent que l'un des aspects de la révélation, elle a un aspect métaphysique et religieux, Dieu donne la loi, etc. Sauf que ça correspond aussi à une conception culturelle particulière, c'est que tout le monde est adressé par la loi. Donc il y a une démocratisation du savoir à travers... En fait, au Sinaï, Dieu ne se révèle pas, il révèle absolument rien de lui-même. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne un texte et il dit « devenez des lecteurs ». Voilà. Et c'est de fait la démocratisation du savoir comme programme politique. Voilà, donc je voulais dire un mot de ce projet social du judaïsme qui explique bien des choses dans l'histoire juive. Alors, je passe un peu sans transition aucune à mon troisième aspect, qui est plus sociologique et qui est plus actuel, sur être juif en France aujourd'hui. Et là aussi, je vais résumer, parce que j'imagine que beaucoup de choses seront... Oui, un petit quart d'heure, 20 minutes, oui. Alors, il y a deux choses que je voulais vous dire qui sont très importantes. Pour les Français juifs aujourd'hui, c'est une reconnaissance très forte envers la Révolution. Ça, c'est central dans la vie des Français juifs aujourd'hui. Alors, les Français juifs aujourd'hui, ils viennent d'origines diverses. Hein. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont là depuis très longtemps, et puis il y a eu un fort courant d'immigration à la fin du 19e siècle en provenance des pays de l'Est, et puis encore plus au début du 20e siècle, dû aux pogroms qui se sont passés alors en Russie en 1907, mais aussi en Pologne, de tout ce monde ashkénaze de l'extrême Est, donc dans les années 20 et 30, etc. Évidemment, il y a eu la saignée de la Shoah et du régime de Vichy, avec des centaines de milliers de juifs déportés, une communauté juive réduite, extrêmement réduite après la guerre, et puis l'énorme apport d'à peu près 300 000 personnes en provenance du judaïsme séfarade dans les années 60. Donc c'est vrai que cette population juive, elle a des origines diverses, avec des profondeurs diverses. Au passage, c'est intéressant de souligner quand même qu'elle est là depuis le 3e, 4e siècle. Il y a toujours eu des juifs en France, c'est une histoire extrêmement profonde, mal connue, peu connue, justement les historiographes s'appliquent à montrer combien le judaïsme en France, en tout cas, est consubstantiellement lié à toute l'histoire française. Il y a des communautés organisées depuis le 2e, 3e siècle. Si vous allez à Cavaillon ou à Carpentras, il y a un petit musée du judaïsme où il y a le plus ancien objet de culte, la lampe d'Orgon. Orgon, c'est un petit patelin en Provence, qui montre qu'il y avait des communautés juives organisées, etc. Et l'histoire juive en France suit vraiment toute l'histoire à toutes les époques. Grand personnage, Rachi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Rachi, vigneron, immense rabbin à l'époque, qui attirait l'Europe entière. Les gens se déplaçaient de l'Europe entière pour aller étudier chez Rachid, dont le centre était à Troyes, en Champagne, etc. Je passe sur cette histoire pour en venir à l'histoire plus moderne. Les Français juifs sont éternellement reconnaissants au fait que la Révolution, la France, ait été le premier pays en Europe à accorder la citoyenneté aux juifs, enfin, l'égalité citoyenne aux juifs. Parce qu'évidemment, le propre du monde, des mondes médiévaux, c'est une discrimination de plus en plus dure envers les juifs, discrimination physique, discrimination sociale, exclusion des juifs de tous les circuits économiques, de tous les de la vie intellectuelle, ce qui ne nous a pas empêché d'en avoir une, mais en tout cas non reliée à une certaine histoire européenne. Et voilà que sous la pression des Lumières, des idées des Lumières, et de l'idée que l'homme avec un grand H est valable sous toutes les latitudes, et que peut-être le juif serait aussi un homme comme les autres, sous la pression d'un certain nombre de polémistes, de l'abbé Grégoire entre autres, etc., cette idée que le juif mérite d'être citoyen à égalité de tous les autres citoyens, et en 1791, c'est la toute dernière loi votée par l'Assemblée constituante, suivante, novembre 1791, égalité citoyenne accordée aux Juifs. Et ça, c'est quelque chose qui a précipité les Juifs dans un loyalisme républicain qui dure encore jusqu'à nos jours. Ça, c'est fondamental dans la psyché juive des Français juifs encore aujourd'hui. Cette idée que la France, c'est vraiment le pays des droits de l'homme, c'est vraiment, il y a une compatibilité entre la Torah, quand on voit la déclaration des droits des citoyens, des droits humains, cette représentation sur la double arche, l'étape de la loi, ça exprime aussi cela, ça c'est quelque chose de central. Et puis, je dirais que dans un sujet plus moderne qui est celui de la laïcité, je dirais que le judaïsme n'a vraiment eu aucun mal à s'adapter, parce que dès 1806-1808, Napoléon, qui a organisé le culte israélite, à l'égalité d'ailleurs des autres cultes, a posé les questions qui fâchent, une série de 12 questions. Il a réuni 120 dirigeants, enfin en tout cas 120 notables du judaïsme à l'époque, pour leur poser la question, en gros, est-ce que le judaïsme est soluble dans la République ? C'était ça la question. Et je dirais que les grands rabbins de l'époque qui menaient ces commissions n'ont eu aucun mal à répondre que oui, bien sûr, le judaïsme est soluble dans la République. Il y avait de tout temps eu un principe juif qui s'énonce en araméen, « Dina dematrota dina », qui veut dire « la loi de ton État est ta loi ». Pourquoi ? Parce que les communautés juives, qui étaient dispersées sur toute la terre, ont vécu sous des latitudes très différentes et dans des systèmes politiques très différents. Et il y a toujours eu cette idée que pour s'adapter, il fallait adopter la loi du pays. Je peux vous dire qu'entre un juif qui vivait sous la Perse sassanide à partir de 6 ans, et un juif dans le sud de l'Espagne qui vivait en milieu musulman, et un juif de la vallée du Rhin qui, au Xe siècle, vivait dans une société chrétienne, enfin, c'est trois civilisations différentes, et c'est pourtant le même peuple juif animé des mêmes bases, eh bien, il y avait ce principe de plasticité politique, la loi de ton État est ta loi. Et on s'organise. Donc il y a un professionnalisme de la souplesse en quelque sorte qui fait que en 1905, quand effectivement elle s'est posée la loi de séparation des Églises et l'État, le judaïsme n'y a vu que quelque chose de positif et auquel il avait aucun mal à s'adapter. Alors je veux juste terminer mon exposé par l'aspect peut-être le plus désagréable, c'est effectivement l'antisémitisme qui est une réalité. Alors depuis le 7 octobre, il se trouve qu'il y a eu cet événement particulier, ce pogrom, cet assassinat du Hamas en Israël, donc qui ravive des choses extrêmement traumatiques, et donc les statistiques le disent, en moins de 3 semaines, j'imagine que les chiffres sont encore plus importants aujourd'hui, plus de 1500 actes antisémites, là où la moyenne nationale en général c'était 400 à 500 actes par an, donc une épidémie réellement d'antisémitisme, qui est un problème. Je ne dirais pas que la France est antisémite, mais il y a de l'antisémitisme en France, ça c'est certain, et l'antisémitisme, on le sait, est quelque chose qui mute constamment, qui n'est absolument pas cohérent, évidemment, d'un point de vue idéologique. Les Juifs sont à la fois accusés d'être tout aussi bien de grands capitalistes au service de l'argent, et puis tout autant d'être des activistes communistes, révolutionnaires, l'antisémitisme n'a jamais brillé par sa consistance, évidemment. Mais il mute. Il y avait un antisémitisme d'extrême droite lié à certains milieux de l'armée, on a vu ça sous l'affaire Dreyfus, et puis je dirais que ce qui est extrêmement déstabilisant aujourd'hui, encore que bon, maintenant on l'identifie, mais c'est une lutte nouvelle qui sans cesse prend des dimensions nouvelles. Il y a deux sources d'antisémitisme très très fortes qui sont majeures aujourd'hui. L'antisémitisme d'extrême droite n'a pas disparu, mais enfin il est quand même à un niveau, je dirais, très résiduel. C'est un antisémitisme de la gauche extrême, j'ai envie de dire, sous la forme de l'antisionisme. L'antisionisme, c'est donc contre Israël, avec cette confusion permanente entre la légitimité de l'État d'Israël, qui est un sujet, et la politique de l'État israélien, qui est un autre sujet. Israël est une démocratie où les gouvernements se suivent et d'ailleurs ne se ressemblent pas. On peut être parfaitement contre la politique de l'État d'Israël, c'est tout à fait légitime. D'ailleurs, en Israël même, je pense que, qui est une hyper-démocratie, l'opposition au gouvernement est encore bien plus vocale que les milieux anti-sionistes ici. Donc ça, c'est une chose. Mais et il est évident que derrière cette opposition éventuelle à la politique de Netanyahou ou de je ne sais qui, se joue une accusation plus insidieuse qui est contre la légitimité de l'État d'Israël au nom d'idées qui se discutent, hein, mais savoir que Israël ne devrait pas exister, etc., pour tout un tas de raisons, et même le cran supplémentaire, c'est que ça sert de paravent à l'antisémitisme, tout simplement, qui est l'hostilité aux Juifs en tant que Juifs. Alors, même les antisémites ont appris à parler correctement, parce que, évidemment, tout ça est l'égalité, donc voilà. On ne verse plus dans l'antisémitisme bête et méchant, encore que. Mais donc, sous couvert d'antisionisme, il y a des pensées extrêmement virulentes qui charrient des clichés. Enfin, je m'avance, je ne sais pas du tout quelles sont vos convictions politiques, mais en tout cas, quand on entend parler quelqu'un comme Mélenchon, ou même Villepin, par exemple, pour prendre deux personnalités différentes, quand Villepin dit oui, dans le conflit actuel, les puissances de l'argent, etc., enfin là, on voit réactiver un cliché antisémite complètement étonnant, et quand Mélenchon dit de Yael Braun-Pivet, qui va en soutien après le 7 octobre, elle campe, voilà, la figure du juif errant qui vient de sa double allégeance alors qu'elle est citoyenne française en Israël, etc. Donc là on voit combien effectivement l'antisionisme peut véhiculer des très vieilles idées antisémites. Et puis la deuxième source, et je dirais qu'elle est problématique, je ne vais pas m'apesantir sur ce sujet, mais c'est effectivement un antisémitisme porté par l'islamisme. Alors c'est vrai qu'il faut distinguer très, très profondément deux choses, l'islam et l'islamisme. L'islam, c'est la religion qu'on connaît. L'islamisme, c'est autre chose. C'est une revendication politique, c'est-à-dire le fait de vouloir instaurer l'islam et la charia comme un système politique. Moi, j'ai moi-même, je vous l'ai dit, je milite pour une association, Les Voix de la Paix, évidemment, où je prône le dialogue interreligieux, le dialogue interconfessionnel, etc. Et j'ai longtemps fait cette distinction qu'il faut continuer à faire. Mais je dois dire que du point de vue de l'antisémitisme, c'est pas seulement un antisémitisme islamiste, c'est l'antisémitisme porté par la culture traditionnelle de l'islam. C'est regrettable d'avoir à dire ça, mais il y a une culture de la dhimmitude. Vous savez que le dhimmi, c'était un statut juridique imposé à toutes les personnes qui n'étaient pas musulmanes, ce qu'on appelait les peuples du livre, à savoir les chrétiens sont concernés par cette histoire, qui était la juridisation d'un statut d'infériorité. Voilà, dans les sociétés musulmanes, tout autour du bassin méditerranéen, pendant des siècles et des siècles. Et c'est vrai que cette culture de la dhimmitude a charrié une pensée de l'infériorité envers les non-musulmans, avec une animosité particulière envers les juifs, renforcé en plus par la création de l'État d'Israël, enfin partout par le sionisme et l'anti-Israël. Et aujourd'hui, je veux dire, cet antisémitisme musulman, je n'ai pas peur de le dire, est un souci et l'une des sujets de préoccupation les plus vifs. On a vu que lors de la manifestation du 12 novembre, qui a fait de manière pourtant assez claire pour la République contre l'antisémitisme, aucun musulman, même les musulmans dits de mouvement éclairé, ne s'est déplacé et a accepté de manifester juste pour ces deux slogans. Donc voilà, l'antisémitisme effectivement est notre souci aujourd'hui. Et c'est vrai que moi je vois des amis juifs, des familles juives à Paris en tout cas, retirer leur nom quand elles commandent un taxi Uber, elles s'appellent plus Cohen mais elles trouvent un autre nom. Quand elles commandent de la nourriture par internet et tous les services de livraison à domicile, elles changent leur nom, elles retirent les mezouzotes à l'entrée de leur maison, etc. Et penser qu'il faille en venir là quand on est juif en 2023, c'est juste surréaliste. Enfin, je veux dire, c'est incompréhensible et surréaliste. Donc oui, on a un petit problème de société aujourd'hui, parce qu'évidemment, on avait bien compris. compris que l'antisémitisme ne concerne pas que les juifs, c'est un problème citoyen, c'est un problème républicain, tout simplement. Voilà, donc je suis désolé de terminer cet exposé sur cette note un petit peu négative, mais bon, voilà, c'est... en tant que religion, pour faire un bref synthèse de ce que j'ai dit, en tant que religion, le judaïsme est porteur, je dirais, d'une pensée de résistance autour de très vieilles valeurs qui travaillent l'être humain, la capacité au langage, la capacité à l'interprétation, la capacité à lire les textes, le rappel d'une dignité, je ne vais pas dire surnaturelle, mais d'une dignité autre que purement factuelle et purement matérialiste. Voilà, avec des idées très spécifiques, ça c'est pour la partie juive, autour de la loi, cette loi qu'on n'a jamais voulu abandonner, parce que justement elle est une médiation extraordinaire entre la souveraineté, la reconnaissance d'une souveraineté du Dieu et la force de la liberté humaine aussi. Et puis, voilà, être juif en France, c'est avoir une grande chance d'être dans la plus grosse communauté en dehors des États-Unis et d'Israël, basée sur une histoire profondément liée au tissu français. Cette reconnaissance que la République nous a donnée, la citoyenneté, et puis la reconnaissance de problèmes, effectivement, préoccupants aujourd'hui. Chers amis, merci de votre écoute.